Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Merguez & Co pour cet épisode de Barbecue Rugby qui va débriefer ce soir le tournoi des Six Nations. Je suis très heureux de vous retrouver tous et très heureux également de retrouver deux experts merguez. Ça faisait quelque temps qu'on s'était pas retrouvés tous ensemble autour du barbecue, donc bienvenue et bonjour à Hugo Tarmac, bonjour.
Bonsoir, très heureux effectivement de se retrouver pour ce nouvel épisode Merguez Rugby et de débriefer ce tournoi des Six Nations plein de surprises et de nouveautés.
Tout à fait. Et avec nous également, un grand plaisir de retrouver la verve et l'entrain de Bilal. Salut Bilal.
Salut tout le monde. J'espère que les braises sont brûlantes parce que ça va balancer des merguez partout.
Ah, alors... Franchement,
j'annonce, hein, je mets la couleur directe.
Mais t'as bien raison d'annoncer la couleur directe parce qu'effectivement, on va donc tous ensemble débriefer avec notre expertise si précieuse ce tournoi des Six Nations, principalement pour l'équipe de France. On va essayer de faire aussi des parenthèses sur les autres nations, mais en vrai, on s'en fout des autres nations. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'équipe de France. Commençons tout de suite. J'ai préparé une punchline directement. Est-ce que la seconde place au classement est trompe-l'œil pour l'équipe de France ?
Ouais, plutôt oui quand même.
Plutôt oui. D'accord. Comment en fait vous expliquez, on va dire ce oui, on va dire tout simplement. On finit donc la Coupe du Monde. Évidemment, sur un quart de finale où on a eu un jeu et des résultats qui étaient quand même assez très bons, voire exceptionnels, jusqu'à la Coupe du Monde. Comment vous expliquez un peu du coup, ce classement qui, selon vous, est en trompe-l'œil ?
Bah, déjà, il y a le premier élément, c'est évidemment, on est deuxième et donc l'histoire retiendra peut-être le résultat, mais nous qui sommes des suiveurs avisés, n'est-ce pas,
des experts.
Du rugby international, des experts, des experts merguezers, on a bien vu les matchs de l'équipe de France et on a vu que les trois premiers matchs, bah, c'était, ils auraient pu être au barbecue avec nous, hein, quoi, tant ils n'étaient pas dans le match. Et ça, moi, je le retiens. Alors, évidemment, on va nous expliquer que il y a eu un changement de staff. Patrick Arletaz, est-ce que la sauce Arletaz elle a pris machin. Moi je pense que les joueurs ils y étaient pas, hein, tout simplement, et que Galtier, sa communication à la base elle était foireuse. Et les deux derniers matchs qu'on a eu, qui étaient des très bons matchs, faut pas oublier que c'était quand même contre un pays de Galles qui est globalement le pire pays de Galles qu'il y a jamais eu, et contre une Angleterre qui aurait très bien pu gagner ce match, hein. D'ailleurs, c'est comme contre l'Écosse, on aurait très bien pu le perdre ce match, ça aurait pas été scandaleux, quoi.
Alors, on avait parlé lors du précédent barbecue, effectivement, on était plutôt pessimiste après le match nul contre l'Italie. En revanche, il y a quand même deux faits marquants de ces trois premiers matchs dont tu parles, Bilal, c'est qu'au moins sur le match contre l'Irlande et l'Italie, on se prend un carton rouge à chaque match. Est-ce que pour toi, Franck, enfin, pardon, pour toi, Hugo.
Hugo.
Est-ce que ces cartons rouges ont vocation à fausser un peu la physionomie, ou est-ce que malgré tout, les bleus n'y étaient pas et finalement, c'est juste un détail d'avoir pris ces cartons sur ces deux matchs.
Je pense que ça aggrave un constat qu'on a tous fait, qui est que. Hormis le Pays de Galles, on aurait pu perdre tous les matchs. On a perdu contre l'Irlande, on fait match nul contre l'Italie, l'Écosse, essai, pas essai à la dernière seconde. Il n'y a pas eu essai, mais enfin, il y aurait eu essai, il n'y avait rien à dire. Et contre l'Angleterre.
Contre l'Italie.
Voilà. Donc, en fait, on a gagné un match, on aurait pu perdre tous les autres. Et quand ces deux cartons rouges, je pense que, voilà, c'est ça a aggravé une situation qui était là. Après, il n'y a plus de carton rouge, d'ailleurs. Bon, il y en a quand même eu deux. Mais voilà, le constat, il était fait par rapport à une page qui n'était toujours pas tournée du quart de finale de la Coupe du Monde et d'un jeu qui était, c'était plus celui qu'on avait connu auparavant.
Moi, je le trouve assez sévère quand même, parce que dire qu'on aurait pu perdre tous les matchs. Enfin,
après, quand tu regardes la révolte, elle vient d'où? Moi, je suis assez d'accord avec Hugo, dire que voilà, les joueurs, ils y étaient pas, et notamment ceux qui étaient à la Coupe du Monde, ceux qui apportent un vent de fraîcheur, c'est ceux qui n'étaient pas à la Coupe du Monde. C'est les Le Garec, c'est les Barré, c'est des voilà. Et l'équipe de France, elle avait besoin de ça, et depuis le début, quoi. Et voilà, et aujourd'hui Fabien Galthié, il veut bien parce qu'il croit en son groupe et tout, nous dire tout ce qu'il veut, mais là son groupe là aujourd'hui, il a pas la tête à jouer des matchs internationaux.
Ouais, moi je ferais à la fois je dis que on aurait pu perdre tous les matchs hormis le Pays de Galles, mais je pense que ce tournoi a permis de tourner la page du quart de finale de la Coupe du Monde. Je pense que les joueurs, à la fin, ça y est, ils étaient revenus dedans. Et effectivement, il y a eu le Garec, effectivement. Mais je pense que foncièrement, il a fallu ce tournoi destination pour que la page se tourne définitivement. Alors, effectivement, La communication de Galthié, il n'y a pas eu de débrief.
Oui, mais
voilà.
Je pense que Galthié, en fait, effectivement, sa communication a été mauvaise. En revanche, je pense qu'il a voulu quand même conserver et protéger son groupe, et il a fait, et on l'a vu, sur les compos d'équipe, au début du tournoi, où justement il a voulu conserver cette ossature qu'il y avait pendant la Coupe du Monde en faisant confiance aux mêmes gars. Il y a eu des erreurs de la part du staff, on en a parlé lors du précédent barbecue, et je pense que, effectivement, ils ont peut-être minoré, ou ils ont sous-estimé la difficulté pour les joueurs de se replonger dedans après ce gros échec. Et après aussi, on peut aussi les féliciter d'avoir réussi à créer presque une nouvelle ossature et lancer des nouveaux joueurs et créer une nouvelle compo. Alors, on va parler de la compo de l'équipe de France. Mais moi, je trouve assez sévère sur, au final, la finale mini-match, parce que pour moi, le match contre l'Irlande, je pense qu'on le joue à 15. C'est probable.
Ça change rien.
Ça change rien. On se perdrait probablement. Pas sur cette dimension-là, mais on perdrait. En revanche, l'Italie, je ne vois vraiment pas perdre le match. Et même si l'Italie aurait pu l'emporter, alors on va pinailler sur la dernière pénalité, mais ils auraient pu gagner. Honnêtement, je pense que si Danti ne fait pas une énorme erreur, le match, même si Jalibert et Lucu sont mauvais sur ce match-là, on gagne. L'Écosse, ça ne m'a pas paru particulièrement choquant qu'on le gagne non plus, même si le dernier essai est annulé et chanceux pour nous. On parlera aussi de l'arbitrage pendant cette émission. Mais après, sur les deux matchs suivants, moi, j'ai trouvé que l'équipe avait de l'entrain. Et au final, s'ils arrivent à tourner la page au bout de 3 tests internationaux de la claque qu'ils ont reçue pour la Coupe du Monde, je trouve que finalement, le staff aura fait du bon boulot.
J'espère que tu dis vrai. Et ça va être vraiment la tournée d'été qui va être vraiment importante. En plus, on va affronter les Barbarians, donc ça va être sympa, quoi, tu vois. Moi, là, j'espère vraiment qu'il y a la jeunesse qui va arriver, hein, qu'on revoit Pozzolo, qu'on voit même les petits jeunes, Hugo Reus du stade de Rochelet, par exemple. Bon, je le cite, Louis, mais je pourrais citer le demi-mêlée de Clermont aussi, mais j'ai oublié son nom, là, tout d'un coup.
Je ne sais pas ce qu'il va y avoir à cette tournée d'été, hein. Quand on sait que les internationaux vont très certainement être mis au repos, que les finalistes vont être
n'iront pas jouer
à cette tournée, ça va
C'est pas grave, c'est trop bien.
C'est une bonne chose, mais ça
peut. UC, quoi.
Voilà, je pense que c'est une bonne chose parce que justement, on verra certainement les U20 champions du monde, etc. Et ça va donner du temps de jeu à des nouveaux visages qui auront le couteau entre les dents. Après, dire que ça va être représentatif et vraiment être marquant sur l'histoire du 15 de France sur l'année.
Non, mais il faut régénérer le groupe. C'est juste ça. C'est juste ça, en fait. Il faut juste régénérer le groupe, rapporter un peu de concurrence, quoi. Tu vois, je veux dire.
Là, il y en a. Là, maintenant, il y a des nouveaux visages. Là, ça, sur les deux derniers matchs, il y a clairement des nouvelles têtes.
Là, tu vois, moi, j'espère pour Lucu, par exemple, que l'émergence de Le Garec, ça va lui permettre de lui pousser une barbe, tu vois, pour des merguez, quoi. Parce que lui dire, là, c'est bon, il pourrait sortir du groupe avec Le Garec. Si Le Garec, il continue à jouer comme ça, le deuxième numéro 9, il aurait pu être le vrai deuxième numéro 9 à côté d'Antoine Dupont et tout, vraiment prendre toute la dimension avec son tournoi. C'était la chance de sa vie, tu vois. Et il a pas su la saisir. Mais ça reste quand même un super bon neuf, quoi. Ça reste un super bon neuf. Donc, je pense qu'il en a un dans le crâne, tu vois, pour pouvoir s'en sortir.
Je pense qu'il a Lucu, il a vraiment pris cher quand même hein, sur le sur ses trois premiers matchs. Ça se voit d'ailleurs au match contre le Pays de Galles quand il marque l'essai à la fin.
Ouais.
Tu sens le gars qui est quand même atteint et qui en a vraiment bavé. Et effectivement, bah, c'est triste pour lui, mais il a pas réussi à avoir les épaules pour saisir sa chance. Et là, on le voit en deux matchs, on le voit difficilement être titulaire. On va difficilement être titulaire, même si Dupont est pas là. Le Garak est plus dynamique, il a plus de grinta,
Mais même Jalibert, par exemple, hein. Tu vois, tu pourrais très bien dire dans un monde où ton deuxième numéro 10, c'est Ramos, tu sais.
Alors, là, ouvrons un débat parce que là, vous voyez, j'ai mis un nouveau chapitre, nouveau groupe. Quand je parle nouveau groupe, c'est nouvelle composition hein, d'équipe. Avec pour vous les gagnants et les perdants. Commençons donc par Ramos parce que Bilal, tu me lances la perche. Ramos, voilà vous. Alors, je vais vous faire deux questions. La première, sans Ntamack, est-ce que Ramos vous le mettez où?
Il est 15. Hein. Il faut qu'il reste 15. Jalibert était blessé. Il a joué en 10.
Donc tu mets Ramos 15 et tu mets qui en 10 là?
Il faut que Ntamack va revenir, mais il faut redonner sa chance à Jalibert quand même. Et puis il y a Antoine Astoy qui peut peut-être monter et puis essayer peut-être un autre joueur. Je sais pas. Justement, la tournée d'été va permettre de peut-être de faire éclore un nouveau 10, mais Pardon ?
On reste sur Jalibert.
Ouais, pour moi, il faut quand même il faut qu'il s'installe quand même comme demi d'ouverture. Je vois pas Ramos. Il faut arrière et demi d'ouverture, c'est des postes avec beaucoup de.
Ouais, mais il sait jouer les deux.
Il sait jouer les deux.
Il faut arrêter. À Toulouse, quand il est 10, il est exceptionnel, tu vois.
Ouais.
De toute façon, cette équipe du Stade Toulousain est exceptionnelle. Ça me fait chier de le dire, mais quand même.
Bilal, il est exceptionnel, mais après son match là contre l'Angleterre, où l'Angleterre avait manifestement quand même bien préparé, en tout cas de manière défensive, le match contre l'équipe de France. Il a quand même beaucoup subi et il est sauvé.
Il a marqué quand même la pénalité de la gagne.
Alors, exactement.
Il l'aurait marqué s'il avait joué arrière aussi.
Son match est sauvé parce qu'il est diaboliquement précis au pied et c'est un luxe énorme et on se rend bien compte, enfin, peut-être pas assez d'ailleurs, la chance qu'on a depuis 3-4 ans d'avoir quelqu'un qui fait du 90% à tous les matchs, n'importe où sur le terrain.
Ouais. Qui rapporte 800 000 euros.
Et alors, on en parlera après sur la phase arbitrage. Je sens que t'as de la merguez à balancer, Hugo. Ça va être un sujet important, l'arbitrage. Mais donc pour Ramos, moi, je trouve justement, Bilal, t'as parlé de Léo Barret. Moi, je trouve ça bien de lui donner sa place. Il fait un très bon début de saison au Stade français. Pourquoi pas? Pourquoi pas le laisser 15?
Bah ouais.
Mais
oui, mais Ramos ne voudra pas être numéro 2 demi d'ouverture et
voilà.
Ne pas jouer à l'arrière.
Voilà.
Il a un instinct de tueur. Il n'a pas voulu être numéro 2 au Stade Toulousain. Il a viré Jaminet. Il s'installera pas dans le fauteuil du prince consort.
Ah non, numéro 15. Il est numéro 15 naturel et quand il est finisseur 10. Voilà.
Mais je regardais. Jalibert va revenir et moi je suis d'accord avec Hugo. Hein. Faut remettre Jalibert. Effectivement, il a pas été bon sur ces trois matchs jusqu'à qu'il se blesse et en particulier contre l'Italie où il a été particulièrement maladroit en étant gentil. Après, on l'a tous vu. Je pense que même si
il faut qu'il gagne le Brennus alors. Il faut qu'il montre qu'il en est dans le slibard. Bah ouais, il faut que lui bébé.
On peut pas lui mettre un truc pareil sur le dos.
Non mais le collectif français était quand même malade au moins pour ses trois premiers matchs. Il a fallu peut-être un électrochoc et un gros changement de compo pour passer. Mais il y a aucun, enfin, Jalibert et Lucu n'ont pas été bons, mais les autres n'ont pas été bons non plus. Enfin,
oui, c'est sûr, c'est sûr.
Tu parles de Penaud, il n'a pas été bon.
Il a été mauvais. Là, on parlait de perdants, des gagnants perdants, bah, en voilà. Perdant, Wookie, il a tout perdu, tu vois.
Wookie a tout perdu. Mais on peut faire une liste. Alors, selon vous, on va commencer par les gagnants, parce qu'on est plutôt vers à moitié plein. Quels sont, selon vous, les gagnants de ces six nations, d'un point de vue individuel? On a parlé de Le Garec, qui d'autre?
Cross,
évidemment,
ah ouais,
Cross. Évidemment, meilleur joueur de l'équipe de France, franchement, de très loin.
Cross, évidemment.
Mais à fou.
Ouais, mais à fou, Flamand.
Flamand.
Georges-Henri Colombe, moi j'ai bien aimé son match. Ouais, franchement, c'était
bien. Son match contre le Pays de Galles, après contre l'Angleterre, on l'a pas particulièrement vu. Et comme tu l'as dit, le Pays de Galles a jamais été aussi faible depuis.
Oui, c'est terrible. Mais bon.
Je pense qu'effectivement, un des gros gagnants aussi, c'est Flamand. Parce que Flamand est revenu quand même. Enfin, il y a eu peut-être un alignement des planètes, mais Flamand est revenu pour le match du Pays de Galles. Et il n'y a pas que lui. Hein, mais quand même, le groupe est allé mieux. Le collectif était meilleur. Et il a enchaîné deux fois 80 minutes sans être particulièrement étincelant contre l'Angleterre. Hein. Mais effectivement, on a senti quand même. Et surtout son activité.
Exactement. Non, mais c'est le joueur le plus sous-coté au monde. Pour moi, c'est.
Non. Il est plus sous-coté. Il était sous-coté, il ne l'est plus.
Il ne l'est plus. Non, il n'est plus.
Il est plus sous-coté. Mais même si, en plus, il est polyvalent et tout. Donc effectivement, Flamand, Le Garec.
Roumat, dans une moindre mesure, peut-être.
Moi, je trouve pas. Roumat.
Il a trop peu joué pour qu'on puisse verser.
Et quand il est rentré, il n'a pas fait. Fait quelque chose de.
C'était contre l'Écosse où il a fait une bonne entrée.
Ouais, mais 10 minutes, c'est très.
Moi, je pense que Tulagi est gagnant. Non, mais il a montré qu'il pouvait répondre à ce niveau-là. Surtout au moment où l'équipe de France était mauvaise. Hein. Enfin, on en a parlé, mais c'est un des seuls qui a vraiment donné satisfaction. On avait un doute sur sa capacité à franchir le palier USAP 15 de France. Et malgré tout, il peut le faire.
C'est surtout les annonceurs qui sont contents là, de Tulagi. Mais cette chevelure, c'est une pub pour Dior. Quoi.
Oh, bah, il n'y a pas que la chevelure, il y a le gabarit physique aussi.
Oui.
Mais
lui,
c'est pas pour Dior, là. Pour KFC.
Mannequin KFC Dior.
Mais par contre, on va arriver. Je pense qu'on va être la première nation au monde au pack à une tonne. Je pense que Galtier attend secrètement d'être le premier.
Questionnant, hein.
On se gargarisait depuis 15 ans sur les Sud-Africains. À chaque fois, on voyait leur pack à 910, 915. On se disait, putain, des Golgoths, c'est des monstres et tout. Quoi. Et là, on se retrouve contre l'Angleterre. On était à 970 kilos. Enfin, je veux dire, mais au bout d'un moment, c'est quoi le message qu'on envoie?
Et on n'a pas plus dominé devant que ça, hein, même à 970 kilos. Hein.
Et donc, en ayant Flamand et en ayant Tulagi en réserve. Donc, tu rajoutes Tulagi, tu rajoutes 15 kilos.
Imagine, t'as Tulagi mais à fou, mais là tu pètes les records là.
Ah mais Antonio mais à fou Tulagi. Enfin...
Il n'y a plus que Georges Colombe de l'autre côté et puis ça y est, c'est là. E4, on est.
C'est impossible mais.
600 kilos quoi. Non mais il y a un moment, il va falloir que. Enfin, il faut savoir après quel jeu on veut pratiquer, est-ce qu'on veut un pack mobile. Enfin voilà, et on revient aux questions du dernier Merguez Rugby sur le jeu que veut pratiquer l'équipe de France.
Chez les gagnants, tu as Julien Marchand, quoi. Par exemple. Julien Marchand qui est à la fois mobile et qui est à la fois lourd. Quoi.
Et surtout, il a profité du fait que Movaka est encore en dedans.
Il était mauvais.
Dedans, et donc, il a retrouvé sa place de titulaire. Et là, maintenant, sur le prochain match, Marchand va être titulaire et sera titulaire et de manière logique. Même en touche, hein, il a été plutôt bon et précis. Donc, effectivement. Et du côté, on a parlé de Le Garec. Pour les autres trois quarts, on a vu quand même des nouveautés. On a vu deux porteurs au centre, on a vu Barré à l'arrière, Biel Barré qui a été lié, qui a été ensuite malade, ou je ne sais plus ce qu'il avait et qui est revenu.
Il a fait une action de grande classe contre l'Écosse.
Ah oui,
deux porteurs, c'est pas évident pour lui. Barré a été plutôt bon. Derrière, c'est il y a Ficou, Bon,
je trouve que c'est encore, enfin, on a assez bien joué, mais je trouve que c'est encore un peu moins, on est moins chirurgicaux quand même que sur les deux dernières années.
Puis surtout, on est moins bon en défense. Hein.
Et on est moins bon en défense. Ouais. On est moins bon en défense. Mais autre enseignement, on est lié. Alors, non, on n'en parle pas encore parce que j'avais parlé des pénalités qu'on se prend et qu'on a pas eu beaucoup. Je veux juste finir sur le nouveau groupe. De ce fait, pour vous, les perdants de ces Six Nations, pour vous, ce serait qui? On a parlé de Movaca. On a parlé.
Il y a un grand perdant, c'est Danti.
Danti, bah oui, ouais, c'est vrai.
Danti,
il a beaucoup perdu, Danti, parce que il a carton rouge, mais il a pas été probant, quoi.
Oui, ça couronne clairement une prestation indigne du niveau international. Alors, je suis désolé, j'adore Danti, ce mec, c'est un profil unique, mais merguez grave.
Willems, c'est un peu différent dans le sens où jusqu'à son carton rouge, il était bon, mais pour moi, il est
non, mais gentil. Ouais, mais Willems, c'est comme Lebel, c'était des mecs qui n'étaient même pas invités, pourquoi ils étaient là, tu vois.
Ouais, mais.
Willems, je suis désolé.
Non, parce que Willems.
Willems, il est bon. Moi, je l'aimais bien, il était bon. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé.
Il a fait 20 minutes, quoi. Mais par contre, j'ai jamais vu ça. Le gars se prend deux jaunes pour les deux mêmes actions où il n'y a rien à dire. Enfin, je sais pas. Effectivement, là où il perd, c'est qu'il n'est pas mentalement prêt, peut-être, ou plus prêt, en tout cas, pour faire cette pression-là.
Mais t'as qu'à voir le niveau de sa saison à Montpellier pour t'en douter, quoi.
Bah, attends, Montpellier revient bien. Hein. Attention, ils vont faire ils vont jouer le Brennus. Hein.
Oui, mais au moment où Guilherme s'est joué, ça, on ne
voyait pas
parler,
venir
d'ailleurs.
Celle-là.
On pourra en parler ça d'ailleurs. C'est honteux, mais bon, bref. Mais tu vois, au moment où il est appelé,
tout à la fin.
Ouais.
Mais en autre perdant, il y a Gabriel aussi.
Ah putain, bah ouais, j'avais même zappé qu'il était là.
Oui, parce qu'on commence comme le tournoi avec lui en deuxième ligne.
Ouais.
Sort un peu de son chapeau. Et on finit avec Flamand et des Gabriel qui est déclassé en top 6, je pense, des deuxièmes lignes français. Hein, parce que il y a Tulagi qui est devant, Meafou, enfin Flamand.
Je suis désolé, il y a Roumat qui est devant.
Roumat
devant Wookie. Bah, si,
c'est pour être sympa avec son papa, quoi. C'est Roumat, voilà, on est sympa. C'est comme Carbono bientôt à prendre son fils. Voilà, c'est... Il va falloir.
Arrête.
Non, mais.
Tu vas pas me dire que Roumat a été moins bon que Gabriel, quand même, sur le peu qu'on l'a vu, je suis désolé.
Oui, non, mais je suis d'accord. Mais on peut pas le mettre dans les gagnants.
Il a pas assez joué non plus, Roumat.
Mais il est passé le numéro 7.
Effectivement, il a joué, mais moi,
5,
je l'ai
quoi.
Même pas vu jouer. Donc, il a pas eu une action.
T'as vu Gabriel jouer, Hugo.
Voilà.
Gabriel jouer, Hugo.
Ouais. Après, il y a. Sur les trois quarts, ben, on en a parlé. Les perdants, c'est Lucu Jalibert. Clairement, ça a été criant sur les trois premiers matchs. Et ensuite, au niveau de donc Danti. Et après, alors moi j'ai une question sur Penaud parce que Penaud, il nous fait marrer. Et voilà. Vous en pensez quoi, en fait, là, de sa prestation, de son tournoi, de est-ce que vraiment c'est lui la star du rugby international chez les ailiers?
Je pense que c'est l'archétype du facteur X. Il peut être X, c'est-à-dire que il traverse le terrain, les adversaires n'arrivent pas à le plaquer, il y a une action contre l'Angleterre. C'est fou, quoi. Il passe 5 ou 6 joueurs en revue. Il est en largeur du terrain.
Oui, sur un travers ridicule.
Je suis d'accord. Mais il a une foulée.
Mais je suis d'accord.
Voilà.
Oui, je suis d'accord.
Il peut marquer des essais pas possibles. Alors, les défenseurs vont apprendre à gérer, dans les prochains matchs. Mais c'est le facteur X, quoi. Il le pire comme le meilleur. Défense, c'est vrai qu'il a un vrai sujet en défense, comme il a un vrai sujet sur les balles hautes. Voilà,
Mais
mais
c'est
à
à l'image,
côté de ça, il peut faire gagner un match, quoi, tout
Mais
simplement.
c'est à l'image de ce 15 de France, en fait, tu vois, je veux dire, ce 15 de France, il finit bien ce tournoi, mais, enfin, il finit bien ce tournoi, mais il fait un mauvais tournoi. Et pourtant, tu vois, je veux dire, Damien Penaud, bah voilà, c'est la même chose. Il finit bien son tournoi. Pourquoi? Parce que c'est un joueur de qualité, tu vois. C'est ce qu'il fait contre l'Angleterre, c'est plusieurs fois. Il fait preuve de leadership parce que, d'accord, il marque pas, mais il met son équipe dans l'avancée. Il crée des vrais décalages. Son travers, c'est pas du tout scolaire, mais en vrai, à ce moment-là, ça a été vraiment quelque chose de bien parce qu'il lâche la balle au bon moment, etc., etc. Et donc, voilà, il en est capable. Il en est clairement capable. Donc c'est, je dirais, frustrant, quoi, tu vois, son tournoi à
Ouais.
Pono, quoi.
Parce qu'à côté de ça, il peut coûter un match tellement en
Exactement.
défense,
Exactement. Il fait n'importe.
c'est pas une porte de saloon, mais enfin, on n'en est pas loin, quoi.
C'est suspect. On se foutait de la gueule de Teddy Thomas, mais
Ah ouais, non, mais
franchement.
Penaud,
Ouais.
il fait de la air défense assez régulièrement, et même contre l'Angleterre, hein,
Ouais.
son contact là où tu as l'Arto qui dit il s'est pas échappé, etc. On est encore sur de
Oui,
la
oui.
défense,
Oui,
c'est
tout à
poussé
fait.
pour ça, hein.
Tout
C'est
à
poussé
fait.
pour ça. Et
Tout
après,
à fait.
ouais, je sais pas. De toute façon, on a qui en ailier là?
Bielbiaré.
Oui,
Bielbiaré, du coup,
alors,
là.
Bielbarré, ok,
Bielbiaré.
mais après, Lebel, on s'est rendu compte qu'il n'avait pas le niveau et qu'il
Non.
n'était pas, lui, en tout cas, le facteur X dans aucun des sens du terme.
Oui,
Et
bah si,
sinon,
t'as
on a qui
Penaud,
d'autre?
bah voilà, bah t'as Penaud, t'as Penaud. C'est vrai,
Voilà.
hein?
Moi, honnêtement, j'ai pas été emballé hein, par
Ouais.
Penaud sur ce tournoi. Je
Ou
trouve que
alors tu le
même.
places de porteur à l'aile.
Bah, Penaud, il a pas de jeu au pied. Il fait des différences. Je crois que c'est l'un des joueurs qui a fait le plus de différences. Franchi, en tout cas.
Ouais,
Mais
de défenseur battu, effectivement.
en vrai, j'ai l'impression que il fait de plus en plus n'importe quoi, quand même, sur le terrain. Enfin, c'est quand même. Alors, peut-être que c'est justement lui où on lui laisse les
Ah,
clés du
c'est pas
camion
faux,
et on
c'est
lui
pas
dit
faux.
tu fais ce que tu veux. Et
Ouais, mais tu
alors.
vois, contre l'Angleterre, putain, ça a permis des trucs de ouf, et finalement, on l'a gagné ce match. Donc,
Ouais,
qu'est-ce qu'on peut
oh
lui
ben.
reprocher, quoi?
Ok, bon, parlons-en de ce match. On va en parler sous le prisme. Donc, troisième thème par rapport à l'équipe de France, on va parler arbitrage, évidemment, arbitrage, puisque
Allez.
dans le débrief du tournoi du 15 de France, même si on a été plus que poussif sur les trois premiers matchs, qu'on a gagné les deux derniers, etc., il y a quand même un enseignement, un chiffre que j'ai vu qui était intéressant, c'est qu'on a été l'équipe la moins pénalisée de ce tournoi destination avec je sais plus quelle était la moyenne, c'était 4,2 pénalités par match ou j'en sais rien. Alors on a eu un pic évidemment avec notre bouillie contre l'Italie, mais sinon Pays de Galles, Angleterre et Écosse, on a été assez
Écosse,
peu
oui,
pénalisés.
tout à fait.
Alors je vous
Bon,
cache pas, je vous
au
cache, je,
bémol des deux cartons rouges, hein, quand même.
voilà, exactement. Donc je vous cache pas, cher auditeur, que le débat a fait rage. Après ce match contre l'Angleterre, sur entre d'un côté le clan des à force d'être Calimero du monde du rugby, nous sommes avantagés maintenant par l'arbitrage et on ferait bien de la fermer parce qu'on a été on a gagné des matchs sur des décisions litigieuses, et de l'autre les gens qui sont plutôt partisans du ça se joue à rien, c'est tout à fait normal qu'on ait eu les pénalités, c'est comme ça et pas autrement. Quel est votre avis à tous les deux sur cette mini polémique, enfin mini ou pas d'ailleurs, polémique qui est née de plusieurs décisions qui ont tourné en faveur du 15 de France. Je les rappelle et après je vous laisse parler. Il y a sept essais invalidés pour l'Écosse à la dernière minute, sept pénalités de Garbisi qui ne peut pas retirer à la dernière seconde et qu'il manque. Cette pénalité contre l'Angleterre à la dernière minute pour un plaquage sans les mains, sans les bras, à la toute dernière seconde. Voilà. Donc, que pensez-vous de ces actions? Effectivement, en rajoutant les deux cartons rouges, même si les deux cartons rouges, je pense qu'il n'y a personne qui regarde le rugby qui se dit c'est un scandale d'avoir eu les cartons rouges. Donc, je pense pas qu'ils
On
entrent
peut
en ligne
les
de compte.
évacuer.
Voilà. Donc, que pensez-vous de cet arbitrage pour l'équipe de France ou contre l'équipe de France?
Bah, moi, je pense que ça va fermer la bouche de tous ceux qui pleuraient sur le fait que la France était la nation à abattre de World Rugby via l'arbitrage. Voilà, on a eu des décisions qui étaient de notre côté, mais ça, c'est l'esprit gaulois. Quand on perd, c'est la faute à quelque chose, l'arbitre. Ça aussi, c'est pas les autres qui marquent, c'est nous qui perdons. Je pense que voilà, ça a permis de rééquilibrer. Je pense que demain, on subira ou on applaudira l'arbitrage comme étant ça fait partie du jeu. Il y a un recours à la vidéo, l'arbitre prend sa décision. Et chacun pourra râler, mais au bout du compte, voilà, le débat sur la France mal aimée qui se fait toujours entuber, et ben quelque part maintenant on balle au centre. Voilà.
Bon. Bilal, toi ton avis?
Je suis épaté par les merguez qu'envoie Hugo. Mais en vrai, au fond, je suis un peu quand même d'accord. Surtout sur la question du scandale là de ce quart de finale et tout, Ben O'Keefe, gna gna gna, tout ça. En fait, c'est le sport de haut niveau, quoi. Vous attendiez à quoi, les gars? Franchement, et ces polémiques là, elles existent dans tous les sports, dans toutes les nations. Et en fait, je veux dire, c'est le jeu des réseaux sociaux, en fait, tout simplement. Au bout d'un moment.
Là, c'est pas le jeu des réseaux sociaux. On va pas y revenir dessus, mais.
Je vois que tu l'as encore mauvaise, Bob. Mais tu vois, qu'est-ce que vous pourrez dire? Les Écossais, ils pourraient se sentir lésés. Les Italiens, ils pourraient se sentir lésés. Ils se sentent lésés.
Après, c'est leur capacité à tourner la page. Et nous, comme l'a dit Hugo, on est peut-être l'esprit gaulois, donc on a du mal à tourner la page et à.
Je pense pas que ce soit l'esprit gaulois. Je pense que c'est surtout l'air du temps, quoi. Tu vois, je veux dire, où en fait, tout le monde parle sur tout.
Oui, voilà, mais
Je pense que c'est très France. Enfin, c'est très gaulois. Les Anglais nos meilleurs ennemis. Nous face aux Anglo-Saxons.
Les Écossais, il faut expliquer.
On n'a pas perdu. Encore une fois. On n'a pas perdu le quart de finale. On n'a pas perdu la finale de la Coupe du Monde. On n'a pas perdu tel ou tel match. C'est l'arbitre, c'est le pigeon qui est passé à ce moment-là. Enfin bon, bref, on extrapole. Mais je pense qu'au moins factuellement, à ce tournoi-là, que n'aurait-on dit si ces décisions arbitrales avaient été contre nous? Imaginons un France-Angleterre en France. Ou en Angleterre, à la dernière seconde, une pénalité sifflée, ça aurait été un déchaînement pas possible. Balle au centre.
Hugo, j'entends ce que tu dis. Après, je trouve que c'est une posture qui est presque un peu facile, en fait. D'autant que même si ça a été très gaulois, on n'est pas les seuls à avoir gueulé après l'arbitrage sur cette Coupe du Monde, et que l'arbitre fait partie intégrante du jeu, mais il y a sa gestion de l'arbitre, les décisions arbitrales et surtout sa relation avec les joueurs et le respect de ce qui a fait la beauté du rugby qui doit vraiment être mis sur la table. Et que là, en disant... alors on était en moins et là on est passé en plus, donc ça s'équilibre et donc c'est fini, on s'en fout. Je trouve que c'est...
Mais il y aura toujours des discussions, il y aura toujours. Mais à une époque où, comme tu disais, Bilal, sur les réseaux sociaux, il faut justement essayer de...
De rappeler les faits, ouais, mais non, mais
il faut mettre pédale douce et puis... considérer l'arbitrage comme il est l'arbitrage dans l'hémisphère sud est différent de celui dans l'hémisphère nord.
Ouais, mais ça, il faut arriver à faire évoluer ça. Une des plus-values qu'a eu Galtier quand il est arrivé à la tête de l'équipe de France, d'avoir pris Garcès, de l'avoir faire complètement rentrer en son staff, d'avoir essayé d'être énormément dans la compréhension des décisions. Je pense que c'est, enfin, à un niveau évidemment, on est de plus en plus professionnalisé, il y a de plus en plus d'enjeux, et c'est malheureusement ça aussi qui crée cette dérive de critiquer tout. Mais tu peux pas analyser ton match en te disant bah, faut faire avec, c'est son interprétation. Et c'est la grosse difficulté des sports qui maintenant génèrent, comme le foot, des décisions où, liées à une seule personne ou à une équipe d'une seule d'arbitre, c'est que on veut évidemment des réponses et des réponses hautes que bon ben ça aurait pu tourner dans l'autre sens. Et c'est venu en sens parce que lui il est sud-africain et que l'autre la semaine dernière il était anglais.
Ouais, mais à la fin des fins,
maintenant t'es professionnel. Non mais Bilal, t'es professionnel, tu t'intègres le staff de l'équipe de France, tu travailles comme tout le monde pendant je sais pas combien de temps pour préparer ton match, et on te dit ben non en fait la semaine dernière ce qui a été pénalisé 10 fois en fait il a été pénalisé que 2 fois parce qu'en fait l'arbitre il a pas la même interprétation. Je pense qu'il y a quand même déjà une évolution à faire sur un peu cet arbitrage à 2 vitesses. Et après, effectivement, il y a un truc qui était particulièrement pénible et qui l'est moins sur ce tournoi parce que on se gargarise un peu du tournoi, mais c'est quand même beaucoup moins important que la Coupe du Monde. Mais la Coupe du Monde, tu vois, il y a Dupont après qui a dit « je trouve qu'on a mal été arbitré ».
Oui, oui, je sais.
Je pense qu'il y a cette notion de respect de la décision arbitrale qui se perd. Et moi, je
l'attends qu'il y a peut-être des évolutions, mais
c'est bien ce dont on parlait.
Oui, mais il faut pas se cacher derrière son petit doigt en se disant, OK, la notion de respect se perd. Moi, je pense qu'il y a 2 choses. Il y a la notion de respect se perd, mais il y a aussi l'arbitrage doit évoluer
à la même vitesse que le jeu.
Les deux sont vrais, c'est juste qu'à la fin des fins, il faut quand même se dire que ça reste un sport et que le sport, bah voilà, et c'est ça qui fait la beauté d'un sport d'ailleurs, c'est qu'à la fin des fins, c'est juste des décisions individuelles, quoi, tu vois, je veux dire, il y a des choses qui, bah, tu vois, je veux dire, Ben O'Keefe, pourquoi il accepte de faire siffler, enfin, de pas siffler, Cheslin Kolbe, quand Thomas Ramos, blablabla. Bah oui, parce qu'il a pris cette décision-là et c'est pas du domaine du rationnel, quoi, tu vois, je veux dire. Comme il nous en arrive tous les dimanches quand tu vas jouer Castelnau Manoac contre, Tarbes, tu vois, je veux dire, et bah voilà, l'arbitre, il fait des merguez aussi, tu vois, je veux dire, et les joueurs, ils font des merguez. Et voilà, bah voilà, c'est des professionnels, c'est poussé au paroxysme, mais à la fin, bah tu pourras rien régler de plus, quoi, tu vois.
Je suis d'accord avec la moitié de ce que tu dis. Les joueurs font des merguez, et c'est aussi pour ça que je pense que je rejoins ce que dit Hugo. Au bout d'un moment, la défaite est liée à la performance des joueurs, et pour gagner, ils auraient dû mieux faire. Il faut arrêter de se cacher derrière le. Tiens, Ben O'Keefe a sifflé ça ou n'a pas sifflé ça, et donc s'il n'y avait pas eu ça, on aurait gagné. En revanche, moi j'en reste persuadé, il y a quand même beaucoup de choses, et même on en parlait en début là de ce thème. Enfin, je veux dire, cette pénalité à la fin pour nous contre les Anglais, c'est lunaire. Enfin, on est sérieux. Soit on décide de pénaliser tous les plaquages où les mecs ils plongent dans les pieds des avants qui chargent sans les bras, et il y en a énormément. Enfin, je veux dire les départs au ras où le pilier adverse ou le troisième pilier adverse il plonge sans plaquer, il fait tomber le joueur adverse. Il y en a mais 5 ou 6 par match.
Oui.
Enfin, je veux dire, moi, j'ai jamais vu ça que ce soit sifflé, sauf si vraiment le mec il part en fauchage et que le mec il tombe sur la tête. Mais sinon, enfin, je veux dire, mais à fou, il charge. Je pense que 8 fois sur 10, le plaqueur il plonge dans ses jambes.
Hein. Et bah, ça, on les regardera. On regardera. On va tous regarder maintenant.
Ok.
Mais je pense que c'est. Il y a très très longtemps, à une autre époque, Jean-Pierre Rive, le divin blondinet d'1m80 et 80 kilos qui jouait troisième ligne de l'équipe de France, avait plus ou moins dit on pourrait jouer sans les arbitres et autres, et il s'était fait corriger en direct par Pierre Albaladejo. Je crois que voilà, il y a des périodes comme ça où l'arbitrage revient. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu quelques matchs là de rugby dans les poules inférieures, là, les divisions très inférieures, où il y a eu des méga dérapages. Je pense que voilà, il faut que nous tous, et moi le premier, hein, on se on mette un peu le, comme tu disais, sur l'arbitrage, voilà, il faut le respect, il faut le remettre en avant et puis l'accepter et avancer, quoi.
Il faut donner des moyens. Je pense des moyens, une carotte supplémentaire pour attirer des vocations, parce que autant par exemple au foot, c'est des postes et des situations qui sont quand même assez enviées, et c'est un peu le Graal d'être un arbitre professionnel de foot. Autant de ce que j'ai vu, en tout cas sur les derniers chiffres que j'ai vus, être arbitre professionnel de rugby, c'est pas. Alors il y a une couverture médiatique et etc. Mais c'est pas non plus une situation professionnelle qui peut laisser particulièrement rêveur, sauf pour un grand passionné. Et c'est pas par hasard que maintenant tous les anciens arbitres se reconvertissent dans les staffs des équipes, parce que ils entrent dans un nouveau monde. Et je parle d'un point de vue économique. Hein.
Bah bien sûr.
Bien sûr.
On l'avait
quand Nigel Owen. Quand tu vois Nigel Owen qui doit être à la BBC, je crois, je pense qu'il a jamais autant émargé de toute sa vie, tu vois, je veux dire. Et tant mieux d'ailleurs, hein, parce que bon, ça couronne une belle carrière quand même. Mais oui, pour restaurer l'autocritas impérial, mais très certainement. Après, voilà quoi, je veux dire. Comme tu disais Hugo, je suis assez d'accord. Ça, c'est des choses qui vont revenir. C'est cyclique aussi, tu vois. Il faut l'accepter.
Alors, je suis en train de chercher via mon réseau énorme de sources le salaire d'un arbitre international. Je pense que Wayne Barnes gagnait 1 500 € par match pour une rencontre de championnat anglais. Et c'est 5005 par match de Coupe du Monde, ce qui est pas mal. Et là, je parle de Wayne Barnes, qui donc a été élu meilleur arbitre du monde. Hein.
1500 par match, donc il fait 4 matchs par semaine, donc ça fait 6000 balles par mois.
Pour la star de l'arbitrage.
Pour la star de l'arbitrage, c'est vrai, comparé à l'équipe.
Un arbitre de foot de Ligue 1, je crois qu'il prend plus de 10 000 par match, je crois. Attends, je veux pas dire de conneries. Je vais.
Les polémiques d'arbitrage en Ligue 1, moi, j'ai arrêté dessus.
Après, effectivement, ça veut pas dire qu'il y aura plus de polémiques. Hein.
Mais regarde dans le foot, tu vois, je veux dire le président de la LFP, la fédération.
Non, mais c'est vrai que le World Rugby devrait faire un effort d'harmonisation, de formation. Il y a quand même plein de choses à faire compte tenu effectivement de la complexité des règles.
Et notamment lors de matchs internationaux, ça je suis d'accord, parce que tu vois, je veux dire, le vrai problème avec le quart de finale avec Ben O'Keefe, c'est que la façon d'arbitrer en hémisphère sud, c'est pas la même qu'en hémisphère nord, sauf que c'est pas possible en fait, tu vois, je veux dire, ça, là pour le coup, ça fausse réellement l'équité, quoi. L'arbitre, il est le juge, tu vois, de le truc là. Donc s'il se dit ouais machin, en fait j'ai décidé de le faire selon ma propre perception des règles et tout, bah non, c'est pas possible.
Voilà. Un arbitre de Ligue 1 en brut, il a une part à 6005 brut et après il a 3 000 € brut par match. Donc ça veut dire que si brut par match. Donc ça veut dire que s'il a fait, on va dire, je sais pas, 3 matchs par mois, il est à 10 000 bruts plus 6005.
Ouais, donc il est à peu près au même niveau que Wayne Barnes, qui est un niveau international.
Ah non, c'est beaucoup plus.
Enfin non, c'est plus. Wayne Barnes.
C'est plus. On approche les 20 000.
Ouais. Bref.
Enfin, 15 000. Bon, bref. Mais en tout cas, oui. Oui, il y a...
Je crois qu'un arbitre, c'est plus de 10 000. C'est plus de 10 000 euros par mois, en moyenne, un arbitre de Ligue 1.
Bah, écoute, il y a de quoi mettre la maman à l'abri, hein, c'est bien.
Non, mais donc, je pense qu'effectivement, il y a cette question-là à avoir pour l'arbitrage. Voilà, donc, Hugo, toi, tu penses que c'est bon, on n'a plus rien à dire sur l'arbitrage parce qu'on a été... On a rien à dire sur ce tournoi. C'est pas faux, mais je pense que c'est pas comme ça qu'on va noyer le poisson quand même.
Voilà. Affaire à suivre. Voilà.
Est-ce que vous avez autre chose à dire sur l'équipe de France? sur n'importe quel sujet. On a parlé discipline, on a parlé gagnant-perdant, on a parlé compo, on a parlé collectif. Est-ce que vous voulez évoquer un autre sujet sur l'équipe de France ou est-ce qu'on passe, on fait une parenthèse sur les autres nations et,
Une petite parenthèse sur les autres nations, il y a eu quand même beaucoup, ouais. beaucoup de choses à dire quand même.
C'est exactement, exactement. Ouais,
oui, c'est un bon tournoi quand même, les gars.
On va en parler. Moi, je vous propose de commencer tout de suite par l'Italie. Parce que l'Italie a jamais été aussi forte, en tout cas en 6 nations, parce qu'il sort d'une Coupe du Monde particulièrement ratée. Et ils ont jamais été aussi bons. Ils sont 2 victoires, 1 nul, si je ne m'abuse. Qu'est-ce que vous pensez de ces Italiens de Quesada?
C'est un vent frais qui arrive sur le rugby. C'est bien qu'il y ait une nouvelle nation qui émerge. L'Italie, depuis le temps, on disait mais qu'est-ce qu'ils foutent dans le tournoi des 6 nations, hein, pendant des années, on a dit ça. D'un coup, ils gagnent 2 matchs. Alors contre le Pays de Galles, qui était particulièrement faible, en plus c'était. C'était une purge ce match. Purge dans le sens, ouais, c'est pas le bon mot, mais c'était triste de voir le Pays de Galles à ce niveau-là, de voir que rien leur réussissait. Ils amenaient des bonnes actions, mais à la fin, il y avait toujours un truc qui n'allait pas. Enfin, c'était c'était triste. L'Italie très bien. Enfin, moi, je suis très content que l'Italie. Gonflent le torse, ils battent le Pays de Galles. C'est l'Écosse qu'ils ont battu aussi. Ils font match nul contre nous.
Contre l'Angleterre, ils ont bien joué aussi. Hein.
Ouais. Bah oui.
J'aurais pu gagner ce match de mémoire. Hein.
Moi, je trouve que c'est très bien l'Italie. Hein. Très, très bien. Hein. Alors, je ne sais pas foncièrement ce que Quesada a apporté. Peut-être tout simplement de la confiance. Et puis quelques rigueurs dans le jeu ou autre, ils ont un bon pack, ils commencent à avoir des joueurs derrière.
Je pense qu'ils ont arrêté de faire n'importe quoi surtout. Voilà. Ils ont commencé à plaquer quoi. Non mais c'est vrai, tu vois. Moi je veux bien avec ces attaques en petit train là, mais au bout d'un moment, tu vois, le rugby c'est aussi le plaquage. Hein.
Je crois qu'ils ont pas le meilleur plaqueur du tournoi là, Lamaro.
Ouais.
Michele Lamaro. C'est hallucinant. Michael Lamaro, vous avez vu ses stats? Alors, je sais bien que c'est un sport collectif. Alors, en moyenne, il y a plus de 20 plaquages par match.
C'est énorme,
le gars. C'est du sautoir.
Voilà, nous, on se souvient des matchs du sautoir où dès qu'il était à 20 matchs, on disait Dark Destroyer, on n'a jamais vu ça. Et là, tu as quand même un joueur italien qui nous fait du plus de 20 plaquages par match.
C'était pas lui qui avait été la rosta de l'Italie dans la série 6 Nations, là?
Ah, ça, je sais pas.
Je ne sais pas.
Il y a une histoire marrante comme ça où il viendrait du Zimbabwe, c'est un colon zimbabwéen et tout. Bah, putain.
Ouais. C'est un super flaqueur, en tout cas. On est tous d'accord pour dire que l'Italie, super.
Oui, clairement.
Moi, je trouve.
L'Italie, super. On a fait. Capozzo, il est plus titulaire, si j'ai bien compris.
Si, il est titulaire, mais il est tout le temps blessé.
Le dernier match, il n'était pas titulaire.
Si. Il a joué le dernier match où il s'est blessé d'ailleurs.
Ah, il s'est reblessé.
Il s'est reblessé. Il se blesse tout le temps, le gars. Franchement, il est trop fort.
Il s'est cassé un doigt ou je sais plus.
C'est
pourquoi.
Ça. Opération.
Okay. Ouais. Ok. Autant pour moi, j'allais dire qu'il jouait plus, mais en fait, non, c'est juste qu'il est blessé. On a parlé du Pays de Galles. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire en plus, même si c'est. Au final, on est triste pour eux parce qu'ils vivent une crise.
Ouais, faut le dire quand même.
Ouais. Ils vivent une crise professionnelle, ils ont plus de moyens, ils ont de facto plus de joueurs. Alors ils ont des pépites, il y a d'ailleurs qui a l'air très bon, cet ailier là qui nous a fait assez mal contre nous.
Ouais, là il y a Jack Morgan aussi qui est bien, il y a Rizamid qui est bon.
C'est trop. Qui?
Rizamid
Jack Morgan. Mais non.
Oui, il s'est barré.
Rizamid, il s'est mis au football américain, mais qu'est-ce qui lui arrive?
Rizamid, oui.
Temps, voilà, les salaires, ils sont meilleurs, qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Oui, bref. On voit difficilement comment ils vont pouvoir relever la tête, même si j'ai l'impression qu'on se dit ça à peu près tous les ans, en se disant le Pays de Galles, ils ont rien, mais là, ça a l'air mal parti quand même.
Peut-être que ça va être l'électrochoc. Espérons-le, en tout cas. D'autant qu'ils ont perdu deux légendes.
Ben oui, Halloween Jones. Et...
Voilà.
Et Neil Jenkins.
Ils ont tout perdu. Ils ont perdu leur mojo. Ils ont tout perdu, les gars. Mais... Ouais. En même temps, voilà. Et ça,
il faut c'est Gatland encore,
oui.
Le coach.
Ouais. Oui, oui. Il paraît qu'il a présenté, il a présenté sa démission. Je ne sais pas si elle va être acceptée, mais voilà. Quoi.
Il y a North qui va prendre sa retraite.
J'arrête.
Aussi. Ouais, je pense que là, ça va être du rail pour les Gallois. Mais après, est-ce que c'était une bulle spéculative du Pays de Galles pendant 15 ans en ayant une équipe formidable qui les a amenés en demi-finale de Coupe du Monde à deux reprises? Et est-ce que là, ils vont rentrer dans le rang d'une nation qui a finalement... assez peu d'habitants, peu de moyens et qui va pas non plus trouver sans arrêt des joueurs, je sais pas.
Bah après là, ça va être leur modèle de formation qu'il faudra réinterroger. Hein,
on va voir.
Exemples dans le foot, il y en a. Hein, par exemple, en Croatie, par exemple, c'est un petit pays machin, mais ils ont un modèle de formation qui font qu'ils ont quand même toujours des super bons joueurs et des bonnes équipes. Peut-être que les Gallois aujourd'hui, c'est ça aussi. La façon dont ils s'organisent en franchise, à l'anglo-saxonne, enfin à l'américaine quasiment, tu vois, parce que le championnat, là, le Super 12 des franchises anglo-saxonnes, personne ne les suit, je sais pas, ça doit être inintéressant possible, quoi.
Tu vois ? Ouais. Non, il va falloir arriver à se réinventer sérieusement pour pas mal de modèles presque
économiques. Non, mais t'as raison de le dire,
économique, hein, oui. En Grande-Bretagne dans l'ensemble, hein. Les matchs n'attirent plus les foules et le rugby est déclassé, donc on va voir, hein, mais depuis que le Saracens déjà s'est fait avoir pour cette belle merguez de salaire et de dream team de joueurs, je sais pas.
Ouais. Bah après, tu vois, c'est l'Angleterre, c'est légèrement différent, mais oui, effectivement, t'as les mêmes problèmes. Hein. Bah là, tu vois, en Angleterre, c'est ils ferment la clé sous la porte. Hein. Franchement, le nombre d'institutions qui ont, c'est en Angleterre, ils ont été, ça a été fatal, quoi.
Parlons justement du coup de l'Angleterre. Qui fait un tournoi. Bah, que pensez-vous du tournoi du 15 de la Rose ? Parlons-en. Bah, c'est les seuls qui ont battu quand même l'Irlande. Hein.
Moi, je vais être. Je sais, on n'aime pas l'Angleterre, tout ça, mais vraiment, ils ont été emballants, ils ont bien joué.
Je suis d'accord.
Ils ont bien joué.
Ils ont bien joué. Il y a eu beaucoup de variétés, c'était pas que du kicking game, tu vois, faut. Et Borswick, il a vraiment amené un mojo. Et là, cette demi-finale, elle a fait du bien à cette équipe. Et bah, d'une certaine manière, ça fait du bien de revoir l'Angleterre, parce que notre meilleur ennemi, on ne l'aime que quand il est bon. Sinon, à quoi ça sert, quoi ? À quoi ça sert, quoi ?
Bon, on avait bien aimé quand on les avait leur ami.
Oui. Si tu fais ça chaque année, c'est chiant.
Je sais pas. Ok, donc toi, Hugo, t'en pensais quoi du tournoi du 15 de la Rose ?
Même pareil. Chose ? Non, moi je les trouve, ils sont des joueurs, le troisième ligne centre, la Ben Earl, je crois, qui est juste incroyable, de tonicité, de dynamisme. Ils ont
Lorenz, le centre.
Oui, Lorenz, mais au-delà de ça, il commence à avoir un jeu équilibré. Alors, c'est pas encore ça, c'est pas les fulgurances derrière, même si.
Bah, Furbank, ça commence à être sérieux, hein, par exemple.
Oui. Puis ils ont un ailier là qui était blessé contre la France, mais qui apparaît très bon. Il y a Marcus Smith. Bon, il va falloir qu'il se calme lui un petit peu, parce que sinon il va finir à l'asile. Mais autrement, ça commence à s'équilibrer entre le jeu d'avant et les actions derrière. Je trouve que voilà, en tout cas, eux sont dans une très bonne dynamique aussi.
Et alors, attends, grosse question. Borswick ne regarde pas le top 14, ne regarde pas la meilleure équipe du monde et ne regarde pas ce flanqueur anglais Willis. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe?
Est-ce qu'il a pris la décision de ne sélectionner que des joueurs qui jouent en Angleterre?
J'en ai bien l'impression.
Est-ce qu'il fait la politique néo-zélandaise? Je ne prends que des joueurs anglais qui jouent dans le championnat anglais ou il va aller chercher des... Je pense qu'il a pris la logique néo-zélandaise sans peut-être s'interdire à un moment donné comme à la Coupe du Monde. Jack Willis était à la Coupe du Monde.
Oui. Et il n'a pas fait d'ailleurs une grande Coupe du Monde.
Non.
Mais
il a quand même fait une demi-finale. Il a fait une demi-finale. Il a fait une bonne Coupe du Monde quand même. Tu vois.
Ouais.
Mais enfin, de manière générale, je pense que Borswick, il a fait le choix qu'aurait dû faire Galtier, c'est-à-dire de faire jouer la concurrence, de faire jouer aussi un nouveau groupe, de tester des nouveaux joueurs. Il y a des joueurs, Joe Marchant, machin, Jack Willis.
Il n'est pas dans la même situation non plus.
Il n'est pas dans la même situation, mais enfin bon, je sais pas.
Attends, Galtier, moi j'aime pas Galtier, mais c'est quand même un des principes de base de conserver une équipe, de la faire maturer, de lui donner de l'expérience. C'est un des mantras des Néo-Zélandais en tout cas. Il a fait rentrer des joueurs nouveaux, mais il ne faut pas quand même que dès qu'un joueur commence à être pas au top, pouf.
Il faut aussi être capable de. Tu vois, c'est important dans un groupe qui est aussi, tu vois, de la concurrence, tu vois. Je veux dire, faut se dire que s'il y a des jeunes qui posent sous portillon et qui commencent à être vraiment bons, tu vois, je veux dire et tout. C'est important, tu vois, je veux dire. Comme vous dites, Joe Marchant, Jack Willis, tu vois, je veux dire, peut-être Farrell, je sais pas, tu vois.
Farrell n'a pas été pris parce qu'il était blessé ou parce
non, que il a pris
parce la punition de l'Euro.
Il a fait un break. Il a dit qu'il faisait un break international.
Ouais.
Ok. La pépite, c'est Fei Uwabozo,
c'est ça? Ouais, c'est ça. Le 3 Carrel, ouais.
Ouais. Ok.
On verra.
Après, je suis d'accord, tout à fait d'accord avec toi, Bilal, sur Borswick, qui a récupéré l'équipe en ruine, parce que l'après Eddie Jones, c'est quand même du rail, je pense, à récupérer, et il a réussi à recréer une dynamique, à se reconcentrer et se recentrer sur les bases. Et maintenant, effectivement, sur ce tournoi, il y a eu un plus, quand même, où il y a eu plus de jeux auxquels par rapport à ce qu'on s'y attendait.
Ce qu'on a vu à la Coupe du Monde, sincèrement.
La Coupe du Monde, c'était quand même très, très stéréotypé.
C'est ça, c'était nul, c'était scandaleusement.
C'est ça que je remarque par rapport à ce tournoi pour l'équipe d'Angleterre.
Il y a eu un changement.
Il y a un changement et il essaye d'apporter beaucoup plus de variété dans le jeu. On verra
pour le prochain tournoi. Pour la Coupe du Monde. C'est un projet
pour la Coupe du Monde, il était obligé de parer aux plus urgents. Donc, il a pris, je ne sais plus comment il s'appelait, l'arrière, là, qui était très bon sous le jeu aérien.
Stewart.
Voilà. Stewart. Et après, c'était chandelle sur chandelle sur chandelle. Oui. Et là, on sent quand même qu'il y a eu cette volonté de dire OK, on se calme. Et il a viré Stewart.
Il est remplaçant maintenant. Voilà, mais c'est fermé.
Mais c'est quand même un message fort. C'est-à-dire que Stewart avait fait quand même une excellente Coupe du Monde et c'est pas pour rien qu'il soit arrivé troisième, je crois.
Et
il a fait non, on le vire, on va changer et félicitations à lui. Parlons de l'Écosse. L'Écosse, on est difficile à s'exprimer sur l'Écosse. J'ai l'impression qu'on dit un peu la même chose tous les ans, un peu une équipe qui est capable de battre tout le monde et qui est capable de perdre contre tout le monde, qui a surtout des joueurs individuellement sur quelques cas qui sont exceptionnels, mais qui peuvent aussi avaler la trompette. On pense à Russell, même si Russell n'a pas fait de dinguerie cette année.
Russell, il n'a pas fait du tout de dinguerie. Il faut arrêter Russell.
Mais sinon, voilà, ils ont été, je pense, dans l'ensemble décevants, même si je pense que cette défaite contre nous au deuxième match leur a fait très mal.
Oui. Bah, c'est sûr que là.
Et la défaite incompréhensible contre l'Italie, quand même. Mais effectivement, c'est.
Ils auraient pu perdre aussi contre les Gallois aussi, tu vois, au premier jour.
Ouais, c'est vrai, parce qu'il menait, il menait 27-0, il gagne 26.
Il gagne 28-27 ou un truc comme ça. Ou...
Ouais. Mais il est passé où ce troisième ligne là, le William Wallace là, Watson ou je sais pas, non.
Amish Watson.
Amish Watson, il joue, enfin, il a 3 ans, il était monstrueux et c'était le leader de cette équipe et on le voit pas. Alors il y a toujours Van der Merwe qui est quand même fort et tout, mais
sacré joueur. Non, mais cette équipe, elle est. C'est toujours la même,
c'est une déception quand même.
Oui, peut-être, quand même.
C'est une déception.
Je suis désolé, j'ai utilisé deux fois des gros mots, mais ça me fout les glandes, quoi, tu vois.
Ça t'emmerde, ça t'emmerde même.
Bah, cette équipe, en vrai, tu vois, je veux dire, quand ils sont tous... En réalité, ils pourraient vraiment concurrencer la France et l'Irlande, je pense, tu vois, je veux dire.
Moi, je pense pas.
Tu vois, je veux dire... Russell, c'est un joueur très très fort. Kinghorn, c'est un joueur qui est excellent. Enfin, on le voit très bien avec le Stade Toulousain justement.
Ils ont un bon pack solide maintenant. Ils ont une très bonne ligne d'arrière. C'est vrai.
La paire de centre, je veux dire, c'est pas possible quoi. C'est pas possible. Stein, il est très bon. Van der Merwe, il est excellent. Enfin, je veux dire ligne par ligne et même les finisseurs, ça va. Il y a quand même un peu de réservoir quoi. Tu vois en Écosse et ils arrivent, ils font seulement ce résultat là. Après, bon, bah voilà, on est une année où on sait que cette année-là, les années paires, du coup, c'est plutôt des années qui sont défavorables au calendrier écossais. Il faudra voir l'année prochaine. Mais là, j'aime l'Écosse, ils commencent vraiment à se dire. Parce que si on n'a que l'Irlande qui gagne, ça va être chiant.
Ouais. Après, je pense que tu parles les années bissextiles pour les Écossais, c'est pas les meilleures, mais après normalement ça va un peu mieux quand même.
J'ai dit quoi les
parlons années parlons bah, finalement les années paires.
Si, c'est ça, c'est les années paires qui sont favorables au calendrier français, qui sont pas favorables au calendrier. Les années bissextiles, ouais. C'est tous les 4 ans. Enfin bon, bref.
Oui, tous les 4 ans. Attention. Parlons enfin de ce gagnant, l'Irlande. Bon, je vais commencer et après je vous laisse enchaîner. Moi, au final, j'ai pas été tant emballé que ça par l'Irlande. Pour moi, il y a deux analyses. La première, c'est qu'ils ont, ça reste une énorme machine de rugby. Ça reste des joueurs qui sont téléguidés et un collectif très très bien huilé. Je pense qu'ils ont mieux géré l'après Coupe du Monde que nous.
C'est rien de le dire.
Oui, enfin bon, au final, ils ont quoi ? Ils ont une défaite et ils font pas le grand chelem et voilà. Mais je trouve que on arrive peut-être au bout de leur système aussi. Alors, à vous de voir, à vous de me dire, hein. Mais je trouve qu'on arrive au bout de leur système où ils ont des lancements de jeu, un collectif très huilé, mais j'ai pas l'impression qu'ils aient particulièrement un plan B.
Ouais, je suis un peu d'accord quand même.
Pour lutter contre une, je sais pas moi, une équipe qui un jour leur pose problème et les contre sur leur point fort. Voilà, c'est un peu mon analyse. Et je trouve voilà. Sexton était le métronome et là ils ont fait une bonne transition avec leur nouveau 10 et c'est bien, mais je suis moins emballé par exemple que l'avant Coupe du Monde, et même s'ils nous ont éclaté au match ouverture, je les trouve pas si fort que ça en fait, ou aussi fort que qu'avant la Coupe du Monde. Voilà.
Bon, moi, je trouve qu'ils ont quand même beaucoup mieux géré l'après Coupe du Monde, hein, parce que eux aussi ont pris une vraie claque en perdant en quart contre la Nouvelle-Zélande, et ils sont arrivés fringants, comme s'il n'y avait pas eu une défaite en quart de la Coupe du Monde. Déjà, premier point. Deuxième point. Ils jouent comme joue un peu le Leinster. Ils ont un système de jeu qui est propagé dans toutes les équipes de province. Hein. C'est quelque chose de qui s'appuie sur un pack très fort. sur des lancements de jeux très étudiés. Il y a quand même des lancements de jeux et des essais en première main qui sont d'une justesse technique qui sont un peu incroyables. Alors après, ils ont peut-être moins de facteurs X de joueurs qui ont parlé de penaux tout à l'heure, mais qui, sur une action, font lever les foules et autres. Hein. C'est plus un collectif extrêmement fort. Voilà, moi, je les trouve quand même... ils sont là toujours au rendez-vous. Ils perdent contre les très, très gros.
Tu dis...
Bon, voilà, OK, il y a le match perdu contre l'Angleterre. Mais enfin, autrement, c'était soit l'Afrique du Sud, soit les Néo-Zélandais qui les battaient. Bon, bah, il n'y a rien là-dedans de
déshonorant. Ouais.
Voilà. Non, moi, je trouve qu'ils tiennent leur...
Et tu dis, Hugo, que...
Ouais, mais... Bah, tu vois, la France a perdu dans ce cas-là que contre l'Afrique du Sud et l'Irlande. Hein.
Oui.
Et pour moi, enfin, bon bref. Vas-y, ouais, Bilal.
Vas-y, ouais, Bilal. Non, tu vois, que c'est le jeu du Leinster. Alors, il y a aussi, et notamment Crowley qui vient lui plutôt du Munster et tout, et on voit qu'il y a un peu plus de variété quand même, tu vois. Mais je suis quand même assez d'accord avec Bob, tu vois. Je suis pas sûr que cette méthode de jouer va les amener à gagner la Coupe du Monde, quoi. La preuve que non, puisqu'ils sont arrivés en quart de finale à la dernière Coupe du Monde. S'ils continuent comme ça, qu'ils apportent pas de variété, bah il va leur arriver la même chose qu'il y a 4 ans. Enfin, je sais pas, mais oui, c'est excellent, c'est exceptionnel et tout. Mais il s'agit de progresser parce qu'au bout d'un moment, bah les équipes ont elles aussi progressé, quoi. Tu vois. L'Angleterre, dans un an, on va voir.
Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de variétés à l'Afrique du Sud.
Ouais, mais
je
ne
suis pas d'accord. En Afrique du Sud, il y a beaucoup, beaucoup plus de variétés. Tu vois, le jeu joué en Afrique du Sud en match de poule et dans les tableaux finales, ce n'est pas le même parce qu'ils n'avaient pas le même 10, par exemple. Manny Mbok, tu vois, il ne joue pas du tout comme Pollard.
Bon.
Alors, oui, ça, effectivement. Ouais, alors, ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi, au fait, Bilal.
Ouais.
Au final, l'avantage qu'a eu Erasmus par rapport à Scar Farrell, c'est que Erasmus, il est capable de changer son fusil d'épaule complètement pendant un match et de passer d'un Liboc en 10 où là, tu te dis, tiens, il a un peu de fantaisie et il a les clés du jeu, à Pollard où là, c'est en mode Irlande. Et l'Irlande n'est pas capable actuellement de faire ça. Et autre point.
Ouais, enfin, Liboc, il jouait contre les équipes plutôt faibles et Pollard, il jouait contre les.
Attends, en demi, c'était Liboc titulaire au début. Hein.
Et je te rappelle qu'il était blessé, Pollard, non?
Non, et après, Pollard a joué la finale. Et, ouais. Et même, il a fait remplacer le 9 et le 10 à la mi-temps, je crois.
C'est ça, juste avant. Ouais, Liboc, je ne sais plus si c'était à la 37e, bon. C'était un truc de ouf, quoi.
Et.
Ben encore une fois, l'Irlande, c'est un petit pays.
Ah ouais,
avec pas
non, trop mais ça on te demande pas, Hugo, on te demande pas de faire une analyse macroéconomique et macro de l'Irlande et d'expliquer pourquoi ils ont pas des John Alomou à tous les postes.
Non, mais dire le maximum de ce qu'ils ont. Moi, je trouve, je les trouve assez impressionnants quand même. Hein.
Okay.
Attends. Bon.
Oui, c'est un modèle de bonne gestion, mais c'est pas un modèle qui permet de gagner la Coupe du Monde.
Ouais. Bon, moi, j'étais moins épaté par rapport à leur prestation que sur l'avant Coupe du Monde 2024. Et
non, mais en vrai, quand même, c'est fort ce qu'ils ont fait. C'est fort ce qu'ils ont fait quand même.
Je suis d'accord. À ce tournoi.
Même si le fond de jeu il est moins impressionnant d'un point de vue mental,
oui, oui.
C'est quand même fort, quand même, faut le dire.
Oui,
faut le dire.
Oui, je suis d'accord. C'est fort, mais ça m'a pas épaté. J'ai pas trouvé que c'était si dominant que l'année dernière, par exemple. Enfin, tu vois, bah les
ils
années
ont battu
précédentes,
les années ils ont été battus par les Anglais.
Oui, mais même les années précédentes, on fait le match chez eux, on se fait défoncer, il n'y a rien à dire, on joue à 15 et on refait le match 100 fois, on le perd 100 fois. Là, cette année, c'est certainement la même chose parce qu'on est malade, mais je les ai moins trouvés rouleau compresseur cette année que les années précédentes. Voilà. Mon avis, donc je pense que l'année prochaine, ils vont avoir la cuillère de bois facilement.
De qui l'Irlande ?
Surtout que l'année prochaine, on va jouer en Angleterre, on va jouer en Irlande.
Ouais. Bon, est-ce que je vous propose qu'on clôture cette page Six Nations cette page équipe de France. Et on va rapidement parler du top 14. Top 14, donc, qui joie du rugby. Hein. Joie du rugby fait qu'il y a des doublons, qu'il y a des matchs qui se déroulent en même temps que des matchs internationaux. Bon, il y a eu donc pas mal de matchs pendant ces Six Nations. Il y a eu de belles affiches, il y a eu de belles surprises. Alors, on va pas faire équipe par équipe. Hein. Je vous fais un rappel du classement quand même, qui est assez édifiant. Il y a les trois stades qui sont aux trois premières places, mais un stade qu'on n'attendait pas, c'est le Stade Français, qui est premier.
C'est le Stade Français. Ouais.
Après, le Stade Toulousain, deuxième.
Ils tiennent sur un mouchoir de poche, c'est ça, Toulouse.
Ouais, ils sont ex aequo. Et après, 10 points derrière, il y a le Stade Rochelet et l'UBB. Castres, 5e, Racing, 6e. Et après, Pau et égalité avec le Racing. Et qui ferme la marche, il y a Oyonnax qui est très loin, l'USAP, 13e, et on a parlé un petit clin d'œil en début d'émission, Montpellier, qui est en train de faire cette remontada formidable avant de la course au Brennus, avec les tontons flingueurs à la tête du club, Laporte, Colazo, Altraz, qui vont faire un guet-apens du Brennus. Bon,
c'est ma pièce sur Lot.
Ça, c'est la super merguez.
Ah non, mais là, mais vraiment.
C'est la super merguez, mais en vrai, ils sont pas si loin que ça. Alors après, on a déjà fait quand même 18 matchs et il en reste donc, 8, je crois. Il y a 26 matchs, donc il en reste 8. Mais ils sont à 37 points et le sixième est à 7 points. Donc c'est pas impossible. Là, ils sont sur 4 victoires d'affilée.
Il faudrait qu'ils gagnent 7 matchs avec le bonus offensif, ils gagneraient 35 points. Ouais, il faudrait qu'ils gagnent tout avec le bonus offensif.
Non, mais ils sont à 7 points
pour être qualifiés.
Pour faire les qualifs, pour arriver dans le top 6, ils ont pas besoin de tout gagner, hein.
Ouais.
Ah ouais. Attends, ils sont à 37 points du
Ils sont à 37, c'est le Racing à 44. Et le Racing
est 4e. Ah, j'avais pas compris.
Ils sont pas à 37 points du 6e.
Non, Bilal. Non, Bilal.
Oh. Ouais, mais j'étais du père. Attends.
et donc il y a en particulier un match qui a lieu donc ce week-end, un match à Toulon, Toulon-Montpellier. Et je pense que ce match va valoir son pesant de merguez pour le retour de Laporte, pour le retour de Colazo. Entre Toulon avec Mignoni qui est en train de s'écrouler complètement et Montpellier qui est donc sur 4 victoires. Bon, bref, que pensez-vous de ce top 14 est-ce qu'il vous a enjaillé ce top 14 pendant ces Six Nations? Est-ce que vous avez kiffé ce top 14 ou est-ce que vous attendez avec impatience le retour des internationaux?
Bah, plutôt le retour des internationaux quand même. Même si je dois dire que ce que fait le Stade Toulousain là pendant ces doublons, c'est quand même vraiment vraiment un truc de ouf. Les mecs, ils envoient les joueurs aux quatre coins du globe, même à Los Angeles et tout, ils arrivent quand même à être performants avec l'équipe cadet, l'équipe réserve des cadets. Tu vois, je veux dire, c'est fou. Et bien content de la dynamique aussi. Enfin, content après, voilà. Mais plus de proportion gardien, ils jouent en rose quand même. Mais du Stade Français, en tout cas, qu'ils arrivent à tenir le bon bout. Voilà, après...
T'es supporter du Stade Français, t'es supporter...
Pas vraiment.
Et donc, t'es vraiment... heureusement que tu t'appelles Bilal Rudbix, parce que là, je suis un peu inquiet quand même.
Non, mais attends, je suis un observateur. Je suis un observateur avisé de notre championnat local quand même. Donc j'essaye de faire preuve de recul, tu vois, par rapport à ça. Mais après, je sais pas, vous êtes enjaillé là pendant ces doublons.
Moi, j'ai trouvé qu'il y avait de très beaux matchs. J'ai été effectivement, j'ai trouvé que le jeu du Stade Toulousain et de ses joueurs très jeunes de 20 ans, que ce soit dans le pack ou que ce soit derrière, était. Mais c'est surtout le rugby pratiqué, le jeu qui était pratiqué. Très dynamique, jeu debout, c'est ça qui était le plus emballant avec beaucoup de justesse technique. Après, il y avait d'autres matchs. Moi, j'aime bien Pau.
Bah, c'est sûr, mais Pau, ils n'ont pas été transcendants. Là, ils marquent le pas quand même.
Ouais, mais ils ont un jeu qui voilà, ils jouent quoi. Tu disais tout à l'heure le Stade Français. Bah, le Stade Français, c'est l'équipe de France quand Galtier a pris en main l'équipe de France. C'est la dépossession. C'est 50 coups de pied par match. Et ouais, d'ailleurs, quand ils sont menés, on l'a vu contre La Rochelle, quand ils sont menés et qu'il faut qu'ils prennent le jeu en leurs mains, ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas.
Après, n'oublie pas une chose, Stade Français, il y a quand même un joueur qu'on aime bien détester, et c'est Cocotte. Je pense que lui, c'est un sacré numéro quand même. Et je pense qu'il n'est pas... il est quand même acteur principal aussi... Un bon relais des coachs et un bon relais fouine sur le terrain.
Cocotte, il mérite une statue. Pour moi, c'est l'un des tout meilleurs joueurs de l'histoire du top 14. J'ai même pas eu peur de le dire, je m'en fous.
Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Castres a gagné le Brennus grâce à lui, en partie grâce à lui. Et c'est pas par hasard qu'il est systématiquement dans le groupe du Stade Français, soit titulaire, soit sur le banc, parce que son poids et son aura est important. Et pour son groupe, pour l'arbitre et pour l'équipe adverse. Enfin, je veux dire, il vampirise une énergie et il a vraiment. Je pense qu'il faut qu'on le souligne. Ce soir, sur Radio Merguez, bravo Rory. On aime bien quand il se fait un peu défoncer parce qu'il est insupportable plusieurs fois.
Ça, c'est une petite fouine, quoi. Et encore, c'est un euphémisme.
Joli euphémisme.
Moi, je comprends pas comment les arbitres le supportent, mais bon, c'est la beauté du sport.
La Rochelle, au dernier barbecue rugby, on était en train de se dire qu'ils étaient en train d'avaler leur trompette et que ça allait être compliqué. Là, ça va un petit peu mieux.
Oui,
Ben,
le retour des internationaux.
Bilal, il me semblait que tu étais, en plus d'être supporter du Stade Français, Stade Toulousain, Stade Rochelais.
Bien sûr,
équipe coup de cœur numéro 3.
Celle qui est troisième du classement d'ailleurs. Non, j'en pense que bon, il faut quand même se dire que c'est quand même une équipe qui l'une des deux meilleures équipes de France là sur les dernières années. Ouais, ça a été un peu plus compliqué, mais ça reste une.
Ça a été beaucoup plus compliqué. Là aussi, au niveau des euphémismes, t'es au firmament là en ce moment. Mais ça a été quand même très très dur d'enchaîner là, parce que. Certes, il y a des doublons, mais ils ont quand même une très très grosse équipe sur le papier, je dis bien. Et enfin, tu vois, ils ont Carbarlo, Asteuil en charnière.
Dulin à l'arrière, bien sûr.
Ils ont Scalvi, Tanga, Cancorier. Enfin, je veux dire, il y a pas que des peintres.
Il y a quand même des
bûcherons canadiens.
C'est ce qui font qu'ils sont troisième, hein, finalement. Ouais. C'est pas immérité, hein, tu vois, troisième, tu vois, je veux dire. Tu sais, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens.
D'accord, donc pas de polémique. Moi, je voulais faire en sous-main une petite polémique au Gara, tu vois. Enfin, on aime bien.
Je sais.
Est-ce que c'est la fin d'un cycle?
Au Gara, il apporte du bien. Au Gara, il apporte du bien. Parce que là, j'ai envie de le dire, parce que je vois de ce que tu essayes de me faire faire, de me faire dire.
Moi, j'aime bien les déclarations de Gara.
Je kiffe de Flandre, je kiffe le Stade Rochelais et je kiffe au Gara. Vive au Gara. Voilà, voilà. Okay. Mais au moins, il a donné du sport à toute une région, tu vois.
Parce que on a eu quand même cette impression de l'extérieur, parce que je ne suis pas supporter de Stade Rochelais, mais en tout cas, j'ai eu l'impression quand même de l'extérieur que il a eu du mal à retrouver les ressorts cette année, quand même. Pour l'instant,
ça a été dur au décollage. Ça a été dur au décollage, mais là, ça va un peu mieux. Ça va même beaucoup mieux, quand même. Tu vois.
Et troisième. Ça montre que c'est très difficile les doublons. Le Stade Toulousain cette année, ils ont géré les doublons presque comme s'il n'y avait pas eu de doublons. Mais les années d'avant, ils ont eu aussi des difficultés. Et les autres équipes, ben regarde l'UBB. L'UBB, sans les doublons, ben ils marchent sur l'eau. Ils ont une ligne de trois quarts. Ben, d'ailleurs, c'était presque la ligne de trois quarts de l'équipe de France. Et ben voilà. Et La Rochelle. Pareil, il manque deux, trois. Enfin, je veux dire, enlever pour l'UBB comme pour La Rochelle entre trois et cinq joueurs titulaires, voilà. La Rochelle, ils ont eu du mal. Cinq joueurs en moins, ils ont eu du mal.
Ouais, enfin, voilà. Alors, vas-y, c'est lesquels les cinq là?
Il y a
Antonio.
Ouais, Danti.
Colombe.
Colombe, il est pas titulaire.
Astoy au début, mais pas voilà.
Ouais, bon, ça fait quatre, ça fait trois et demi quoi.
Et avec Skelton qui était blessé, voilà.
Ah,
c'est 34 de devant. Voilà.
Pour Skelton, je suis entièrement d'accord. Je pense que on sous-estime l'impact de sa blessure sur. Enfin, je veux dire, c'est le véritable patron de l'équipe, le capitaine, et sa blessure, effectivement, a mis un gros coup. Mais par rapport au doublon…
L'UBB, c'est pareil, mais l'UBB, il marche sur l'eau. Et heureusement qu'ils avaient pris beaucoup d'avance, parce qu'ils sont dans le dur.
Ouais.
Voilà.
OK. Pour…
Après, La Rochelle, quand même, au mois de mars, ça va. Ils ont quand même réussi à battre, si je ne m'abuse, et Clermont. Et le Stade français, ça va. Hein.
Ouais. Parlons de Clermont. On a parlé de Christophe Furios à la tête de l'équipe de France il y a trois semaines. Est-ce que vous pensez que c'est toujours une bonne idée?
Non.
Il faut pas enterrer Clermont. Hein, mais là, en ce moment, ils sont quand même sur une mauvaise passe. C'est pas de le dire. Eux, ils peuvent pas trop se plaindre des doublons parce qu'ils en ont pas, il me semble.
Si, avec les U20 peut-être, avec leur neuf là, comment il s'appelle, Gibert.
Ouais. Mais sinon, ouais, c'est malheureusement, est-ce que c'est on est en train de suivre le déclin d'un monument du rugby quand même. J'ai l'impression.
La SM, en tout cas, qui a du mal à renaître de ses cendres.
Depuis trois ans. Après, ça s'explique parce que déjà, qui veut aller
vivre à Clermont,
habiter à Clermont et que Michelin, heureusement que Michelin est là pour payer des grosses enveloppes aux joueurs, et etc. Mais c'est un peu triste, mais effectivement, on en a parlé. Hein. Toulouse avec ses Krabos qui va gagner à Clermont. Hein.
Exact. Clermont, ouais, c'est peut-être, je sais pas.
Bon, après, Clermont, ils recrutent à Toulouse aussi. Hein.
Avec ce qu'ils peuvent. Et là aussi, ils ont recruté Tauzin, ils ont recruté, comment il s'appelle,
Fouissac.
Le centre Fouissac. Enfin, c'est là aussi où tu te dis. Là, on est en train de vivre le déclin quand même de Clermont, parce que Fouissac, je l'aime bien, il est courageux et il est certainement talentueux. C'est pas non plus un top joueur du top.
Oui, oui.
Non, mais on est même, d'accord. Il y avait beaucoup d'ironie dans ce que je disais. Et Tauzin, c'est pareil.
Même en 10, avoir Urda Pietà,
Urda Pietà, 48 ans. C'est un joueur très solide, hein, mais. Et après, moi, je suis impatient de voir Tauzin avec Urios, quand même. Si Urios reste, hein, mais je pense que ça va déménager, quand même.
Alors que, tu vois, par exemple, il y a 2-3 ans, justement, Lopez, il s'est barré à Bayonne, et tu vois, comme un symbole, Bayonne est devant Clermont, hein. Et Lopez, finalement, on pensait un petit peu finito, quoi, tu vois, mais ça va. Hein.
Ouais. Ils ont beaucoup perdu avec le départ de Lopez et Ituria.
De manière assez étonnante, Ituria, je suis pas trop d'accord, parce que Ituria, on en parle beaucoup, mais j'ai pas l'impression qu'il ait particulièrement été incroyable.
Là, le départ de Penaud, c'est surtout ça, là, ça les a terminés. Quoi.
Ouais. Bon, après il y a Raka, mais Raka il a pris cher, hein, aussi. Il y a eu cette petite phase. Alors on n'a pas le temps d'en reparler du cyber harcèlement que subissent les joueurs professionnels.
C'est scandaleux d'ailleurs. Il faut quand même avoir un petit message de dire que c'est quand même scandaleux de faire ça, tu vois, auprès des joueurs. Ouais. Ça reste des joueurs, ça reste des êtres humains quand même.
Oui, voilà. Je pense qu'il y a ce fait que les réseaux sociaux permettent beaucoup de choses. Après, je pense qu'il faut quand même. Honnêtement, je pense pas que ce soit forcément la faute des réseaux sociaux. Je pense que c'est beaucoup plus la faute des paris sportifs. Mais c'est un autre sujet qui est un peu plus long. Pour moi, les réseaux sociaux, pourquoi pas, et c'est dans une certaine chose, ça peut être même une bonne chose. La proximité avec des gens, ils savent ce qu'ils font et pourquoi pas. En revanche, je pense que le mal, enfin, je pense que c'est l'arbre qui cache la forêt. La forêt, c'est les paris sportifs. Et en fait, les dérives monumentales qu'il y a sur les comportements des gens dans tous les sports, et qui est la mère de tous les problèmes liés au sport professionnel, sont les paris sportifs et cette fuite en avant qu'on fait et qu'on a sur toutes ces choses-là. Parce qu'au final, le cyberharcèlement vient de parieurs qui ont hypothéqué leur baraque pour leur cote à 1,38, etc. Enfin, je veux dire, voilà, c'est mon avis. Je pense qu'il faudrait effectivement qu'on fasse une émission un peu plus longue là-dessus. On est à la fin, donc on va pas forcément parler. Effectivement, ces comportements sont scandaleux et n'ont rien à faire sur n'importe quelle plateforme que ce soit. Et soutien à Raka, à l'UQ, également, qui en a beaucoup subi aussi. Et à, malheureusement, tous les autres qui en subiront encore de la part de
ces énergumènes.
Voilà, de ces énergumènes. de ces voyous.
Après, ça n'empêche, et pour le coup, pour revenir un petit peu sur l'aspect sportif, bon, bah, ça n'empêche qu'effectivement, Raka, ça fleure. Il sent meilleur les années 2010 que 2020, quoi. On va pas se mentir. Tu vois, je veux dire.
Il fait pas une année dégueulasse, hein. Alors attends, il fait une année dégueulasse. Raka, il a fait un match catastrophique. Il a fait un match catastrophique contre le Stade Toulousain, comme toute l'équipe de Clermont. Mais si tu regardes la fiche de Raka, alors attends, je crois qu'il est pas.
Je sais que tu l'aimes bien, Bob. Je sais que tu
l'aimes bien. Moi, j'aime bien Raka, et de toute façon, je trouve que les trois quarts des îles m'ont toujours fait rêver au rugby, parce que je trouve que physiquement, ça a toujours été des joueurs extraordinaires. Et effectivement, il y a ce côté un peu défense qui laisse à désirer, mais en même temps, quand on a Penou, ça change pas énormément de la défense de Raka. Voilà. Après, effectivement, pour l'instant, Penou est meilleur, mais Raka a quand même de très très grosses capacités. Et tu vois, entre Lebel ou Raka, je pense que le Raka est meilleur que Lebel à un poste d'ailier.
Ouais, ça c'est peut-être vrai, ça par contre.
Voilà. Mais
pas convaincu, mais bon.
Ah, Lebel, quand même, tu disais en équipe de France, c'était ultra suspect quand même. Tu vois, titulaire en plus.
Oui, mais n'oublie pas, Bilal, que Hugo est quand même. Tu vois, toi, t'es groupie de plusieurs équipes de rugby et principalement de ceux qui gagnent. Hugo.
Moi, j'aime l'Ovalie.
Hugo est quand même fan du Stade Toulousain. Tu vois, et encore, il nous a pas encore parlé de Paul Coste, qui devrait être centre à la place de Deporter et etc. Mais bon.
Barassi, plutôt Barassi.
Du retour de Barassi, voilà. Barassi.
Yes, ok, bon. Écoutez, on est à bientôt 1h30. Est-ce que vous avez un mot de la fin ou quelque chose d'autre sur lequel on n'a pas parlé, sur lequel vous vouliez intervenir? Ou pas?
Non, je pense qu'on rentre dans la dernière ligne droite du top 14, là, avec l'arrêt des doublons. Et que ça va être passionnant et que les prochains Merguez Rugby mettront l'emphase sur le top 14 et que ça sera passionnant. Il y aura des tas de choses à dire.
Info quand même de dernière minute, vous avez vu que Tuilagi s'est engagé à Bayonne.
Ouais.
Possolo Tuilagi ?
Non.
Manu.
Manu Tuilagi ?
Manu, l'anglais.
Ouais.
Non, c'est vrai.
Ouais. Bayonne, il va aller surfer et boire des coups avec ses potos.
On va avoir Farrell, Marchante. Ça va être
Tuilagi.
Tuilagi, Willis.
Ça correspond aussi avec ce qu'on disait sur la baisse du niveau anglais, hein. C'est qu'en fait, ils ont
plus. C'est paradoxal.
Ben, ils ont quand même plus de moyens et donc ils vont bientôt ils vont payer. Enfin, c'est.
Ben là, c'est les gros salaires là qui partent.
Les joueurs vont.
Gros salaires, ça va, tu vois. Il reste des réservoirs. Il reste des réservoirs. Là, les gros salaires, ils se barrent. Franchement, avoir Manu Tuilagi à Bayonne, en vrai, why not, hein. Franchement, ça fera plaisir. Hein. Franchement, pourquoi pas.
Ben, je pense que ça, il va être suivi par d'autres de ses compères.
On va voir.
Ouais, je sais pas. Je pense qu'on va arriver au bout d'un moment où les mecs qui veulent jouer en équipe d'Angleterre, bah écoute. Ouais.
Je pense que Itoje, à mon avis, on va le voir bientôt arriver en top 14.
Mais oui, mais pourquoi pas. En plus, tu vois, c'est des mecs, en même temps, ils ont plus rien à prouver. Tu vois, je veux dire, ils aillent kiffer.
Ah, bah il y a l'autre là qui a signé à Brive. Le découpeur, le sécateur infernal. Là,
Cornelos.
Bah oui.
Putain, alors ça, c'est quoi,
Cornelos à Brive. Il va jouer le maintien avec Brive.
Après, tu vois,
il
c'est
va jouer en D2 à Brive.
Là, c'est quand même, c'est là où tu te dis, il y a un truc. Enfin, je veux dire, tu pars à Bayonne.
La filière anglaise.
Non, mais ça peut se comprendre. Tu pars à Bayonne. Qu'est-ce que tu vas foutre à Brive, quoi?
Ah, ça.
Genre, tu vas faire tourner les serviettes avec Patrick Sébastien. Enfin, je pense qu'il y a erreur sur la marchandise. Il s'est trompé.
Mais en plus, Brive, qui a envie de vivre? Alors, on parlait de Clermont.
Oui.
Qui a envie de vivre à Brive?
Mais c'est ça.
Ouais. En tout cas, Cornelos en Pro D2 avec la dimension physique de la Pro D2, ça promet au niveau des plaquages. Ça, voilà.
C'est clair,
là, on
c'est
a
clair.
Un artiste hein, quand même. Hein.
Ah,
entièrement. Et ancien capitaine hein, de 15 ans.
Et
anglais,
que moi, je trouvais très bon. Hein, je le trouvais bon. Hein.
Oui. Après, fou, mais bon. Bon, écoutez, merci à vous d'avoir été présents ce soir, aujourd'hui, à n'importe quand vous nous écouterez et que vous nous avez écoutés. Merci à tous d'avoir été présents sur ce live. Et écoutez, à bientôt. On va essayer d'en faire peut-être une toutes les deux semaines. Je dis ça à chaque fois qu'on fait une émission, mais on va essayer pour se maintenir à niveau. Le top 14 reprend pour notre plus grand bonheur, pour voir qui va descendre avec Oyonnax. Qui va accompagner le Montpellier dans cette phase finale du top 14. Nous sommes impatients
l'enfer,
de voir ça.
L'enfer.
Nous sommes impatients de voir ça et on vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne nuit, tout ce que vous voulez et à bientôt pour une nouvelle aventure rugbystique. Salut.
Au revoir.
Topette.
Chandelle, il faut sauter, il faut tirer la main, cette main.
Oui, on l'a
Il faut l'arrêter, il défonce tout.
Oh là là.
Quelle action de Jordan Lopez.
C'est une idée
extraterrestre, Christian. N'ayons pas peur des mots.
Christian Dominici a pris le ballon.
Essai de Christian Dominici, c'est un génie.
Ah, il a pas mis, il a passé les bras.
Extérieur,
Michalak. Il y a du monde à l'extérieur avec Evans. Qui va retrouver Jean-Sion. Jean-Sion, Terre promise.
Ma fille, attention pour moi, oui. Oh, les Japonais, c'est juste incroyable, c'est fabuleux, ce qu'on fait aujourd'hui, les Japonais.
Here comes Jason Kenny, Colby.